Mais on va rester sur le bonhomme. Jean-Claude Guilbeault, vous l'avez connu.
Ben moi, j'ai fait mon droit à Bordeaux de 62 à 68. Quoi. Donc j'ai eu Ellul comme professeur à plusieurs reprises, jusqu'en doctorat. Et c'est vrai qu'à l'époque, il faut se souvenir quand même de ce qu'était le début des années 60. Dans l'air du temps, on était quand même en pleine guerre froide. Et le paradigme dominant, en gros, c'était l'affrontement entre le communisme et le libéralisme. Et tout d'un coup, on trouvait dans le programme à l'époque, le programme de Sciences Po, ce livre de Jacques Ellul, La technique ou l'enjeu du siècle, qui disait, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on y pense avec le recul, qui disait, la contradiction principale n'est pas du tout entre libéralisme et marxisme. Ça, c'est une compétition qui appartient au siècle dernier. Et de toute façon, ces systèmes sont convergents par bien des côtés. Le problème principal, c'est notre rapport à la technique. On disait pas encore la technoscience, mais disons le processus technicien instrumentalisé par l'argent. Voilà le problème que nous devrons affronter dès aujourd'hui et demain. Ça ne voulait pas dire qu'il rejetait la technique. Ça veut dire simplement qu'il décelait. Il ne considérait pas que la technique était un processus neutre. Autrement dit, la technique était porteuse par elle-même d'une certaine vision de la société, d'une certaine aliénation qu'il fallait apprendre à combattre, contre laquelle il fallait apprendre à se dresser. Mais je vous assure qu'à la fin des années 50 et au début des années 60, ce discours était proprement inouï. C'est-à-dire qu'il n'était tenu par personne d'autre, sauf les situationnistes à Strasbourg. En 59, paraît le premier bulletin de l'international situationniste, de Bord Van Eghem, que Ellul repère immédiatement, avec lequel il se sent en connivence. Il fait le voyage de Strasbourg, il va les rencontrer à la fin des années 50, et finalement il décide qu'il ne peut pas négocier sa foi chrétienne et que c'est un point de désaccord avec eux. Mais à ce moment-là, la parole d'Ellul était incroyablement dissidente, quoi. Et c'est vrai que nous étions quelques-uns à Bordeaux à être d'abord éblouis par son érudition, sa compétence. Porquet a raison de dire qu'il connaissait bien mieux le marxisme que les marxistes eux-mêmes. Quelquefois, j'ai assisté à des débats entre Ellul et des marxistes militants. C'était à mourir de rire parce qu'il était un point. Et en même temps, on était fasciné par l'absolue liberté de ce type. Quoi,
je parlais du portrait. Comment il était dans la vie, puisque vous l'avez côtoyé. Dans ses bouquins, il est quand même c'est le grognon. Quoi. C'est le gars pas content.
Je l'ai toujours dit. Vous savez, alors que j'ai eu une route assez longue avec lui, ce qui fait que comme j'ai été son éditeur après, j'avais une certaine liberté de parole avec lui. Il était grognon, rouspéteur, il écrivait trop, il écrivait mal, qu'on a réécrit avec lui, sur lesquels on a travaillé, honnêtement, quelques-uns. Non, je veux dire qu'il était dévoré par le fond, par l'urgence de ce qu'il avait à dire. Il écrivait tous les matins, systématiquement entre 6h et 9h du matin, avant de prendre son petit déjeuner. Donc il y avait un côté torrentiel, et pour nous qui cherchions à le défendre, c'était trop. 3 livres par an, 4 livres par an, 2 livres par an. Et en outre, c'est vrai qu'il campait un petit peu dans une espèce comme ça de quant à soi provincial, tout en se disant qu'il était ostracisé par Paris. Donc il était dans cette position un petit peu il avait quelquefois un complexe de persécution. Je dois dire d'ailleurs, quelquefois avec raison, parce qu'à l'époque, quand il faisait de temps en temps une tribune dans Le Monde, dans la page débat du Monde, qui s'appelait pas encore comme ça, c'était quand même très méchant, parce que chaque fois il me téléphonait pour me dire qu'il était blessé. Le Monde, vous savez, quand on met une petite astérix pour dire quel est l'auteur. Alors le Monde mettait une petite astérix, puis en bas, il y avait Jacques Ellul, enseignant à Bordeaux. C'était vraiment très méchant, quoi. Et donc, c'est vrai que tout cela, le côté grognon, le côté torrentiel de son œuvre, a probablement empêché qu'elle ne soit davantage connue. Sauf qu'elle a énormément été diffusée aux États-Unis, par exemple, ou dans les pays de l'Est. Dans les milieux dissidents, on a beaucoup lu Jacques Ellul. Et que donc, paradoxalement, c'est peut-être en France, dans son pays, qu'il a été le moins prophète. Mais moi, je pense qu'il a eu malgré tout une influence souterraine très importante. Et qu'il a été pillé. On pourrait citer plein d'exemples. François Furet, dans Le passé d'une illusion, a pillé des passages d'Ellul sur le bourgeois de façon incroyable. J'ai souvent repéré dans des livres des pillages d'Ellul qui ne s'avouaient pas.